J'aime beaucoup la lettre de Paul aux Colossiens, cette lettre que les lecteurs du Nouveau Testament 5 minutes vont découvrir cette semaine. Cette lettre de Paul aux Colossiens est une lettre qui répond à ceux qui en veulent aux chrétiens de croire que Jésus-Christ est Dieu et vrai homme. C'est une lettre qui répond à ceux qui ont envie de chercher dans le ciel des intermédiaires qui nous rapprocheraient de Dieu, des anges ou des humains. Elle répond à ceux qui voudraient nous éblouir par des visions, des extravagances mystiques. Elle répond à ceux qui voudraient nous imposer des règles d'alimentation. Elle répond à ceux qui nous diraient que le dimanche n'est pas le bon jour ou que Noël n'est pas le bon jour. Et ce que j'aime dans l'Épître aux Colossiens, c'est la manière de répondre à tous ces courants de pensée. Il ne s'agit pas d'une liste de dénonciations à non plus finir, mais d'une présentation positive de Jésus-Christ qui est la clé de tout. Pourquoi chercher ailleurs? Paul dit que nous avons tout pleinement en Christ. L'occupation romaine en Israël a fait des milliers de victimes. 30 ans après son exécution, l'une des victimes continue à faire partie d'elle. Les grands acteurs de l'époque sont morts ou oubliés. Les grands prêtres, Anne et Caïphe, l'empereur Tibère, le gouverneur Pilate. Mais le nom d'un crucifié commence à se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Cette victime, ce crucifié, vous le savez, c'est Jésus, mort à Jérusalem sous Ponce Pilate. Mort, enterré et ressuscité. Mais qui est-il? Il est le Messie que les Juifs attendaient depuis 1000 ans. Il est la science éternelle devenue accessible aux hommes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est Adonai, Kurios, le Seigneur. Et du fin fond de sa prison à Rome, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la petite ville de Colosse pour dire que Jésus-Christ répond à toutes leurs questions et à tous leurs besoins. Et nous allons écouter Paul en lisant Colossiens, les vers chapitre 1, à partir du verset 9. Je l'ai là, que Paul revient. Voilà. Là, vous avez la Bible du semeur. Paul le dit donc, « Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans défaut devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Un peu plus loin, au chapitre 2, en lui, en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Pourquoi chercher ailleurs? En Jésus, nous avons tout. Et ce passage répond à la question, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? On va l'éteindre. Il faut que vous ayez votre Bible sur les genoux maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour qu'il soit si important dans nos vies? Et le verset 13 nous dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus est donc à la tête d'un royaume composé de gens arrachés aux ténèbres, à la tête d'un royaume. En lui, dit le verset 14, en Christ, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est fort ce mot, arraché au pouvoir des ténèbres. C'est ainsi que l'apôtre décrit la situation de l'homme sans Dieu. Et il dit même, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est-à-dire que l'apôtre Paul se met lui-même dans la catégorie des gens qui étaient sous le pouvoir des ténèbres. Alors qu'il était juif, pratiquant, religieux, et qu'il connaissait la Bible par cœur. Non, il se place dans la même catégorie. Le juif religieux et le païen débauché sont dans le même cas de figure, ou presque. Ils ont besoin de changer de royaume, ils ont besoin d'être éclairés, ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et si nous sommes en Christ, c'est chose faite. Parce qu'en Christ, verset 14, nous avons le pardon de nos péchés. C'est quoi? Être en Christ. Être uni à Christ, comme disent les traductions modernes. C'est quoi ça? Eh bien, il y a une image biblique qui nous aidera à comprendre, et les jardiniers vont certainement comprendre. C'est l'image de la greffe. Nous sommes devenus une même plante avec Christ, dit la Bible. J'ai un ami à Rennes qui prenait des pommes de terre et des tomates. Il faisait en sorte que les tiges se croisent. Il greffait la tige de la tomate sur la tige de la pomme de terre. Et au bout d'un certain temps, il coupait les feuilles de la pomme de terre et il coupait la partie qui allait vers les racines de la tomate. Les racines de la pomme de terre portaient les feuilles et les fruits de la tomate. La greffe. Eh oui. Je vous donnerai son nom et son adresse, si vous ne me croyez pas. La greffe. Hein? Bon, peut-être que là, on dirait une greffe contre nature. Ce n'est pas tout à fait une greffe contre nature. Quand la Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Nous sommes comme greffés sur lui au moment où il meurt à la croix et qu'il ressuscite. C'est là que nous sommes greffés sur lui. Et pour présenter ça de façon symbolique, nous passons par le baptême, en disant « La mort de Christ, c'est ma mort. La vie de Christ, c'est ma vie. » Nous ne faisons qu'un. Jésus n'avait pas besoin de mourir. Judas a dit « J'ai livré à la mort un innocent. » Pilate l'a trouvé innocent à 3 reprises. Hérode l'a trouvé innocent. Et ses adversaires religieux ne trouvaient aucune charge qui collait, sinon ce qu'il disait lui-même de son origine céleste. Jésus pouvait regarder en face une foule hostile et dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Aucune faute personnelle ne l'a conduit à la croix. Aucun péché qu'il devait expier. La Bible enseigne que Jésus a donné sa vie en sacrifice pour les autres, pour nous, pour porter la charge de culpabilité qui nous séparait de Dieu. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Mais pas pour tout le monde. Son geste ne sauve pas les gens malgré eux. Il sauve ceux qui veulent être sauvés. Il ne place pas dans le royaume de Dieu ceux qui ne veulent pas y être. Il ne sauve pas ceux qui lui disent « mouais ». Il sauve ceux qui lui disent « oui ». Franchement, volontairement, consciemment. Et ce sont ceux-là qui peuvent apparaître devant lui, comme dit le verset 22, « saint et irréprochable et sans faute ». C'est quand même quelque chose de fabuleux. Et maintenant, il faut se poser la question, mais qui est-il pour faire tout ça, pour nous sauver comme ça? Qui est-il? Et dans notre passage, c'est le mot « fils » qui répond à cette question. Il est le Fils de Dieu. Et tout de suite, ça suscite bien d'autres questions. Dieu peut-il avoir un fils? Des fils? Et pourquoi pas une fille? Les dieux romains faisaient régulièrement des enfants aux femmes de chez nous. Hercule, le célèbre Hercule, était l'un de ces demi-dieux. Alors Jésus serait un petit peu comme les demi-dieux de Grèce et de Rome. Mais non, absolument pas. Le verset 17 dit qu'il est avant toute chose. Il est avant Marie. Il est avant Ève. Il est avant toute la création. En Marie, il a effectivement endossé la réalité humaine. Mais il était bien là, avant, dès le commencement. Lui-même l'a dit. Et pour mieux comprendre encore, nous avons le verset 15 qui nous dit excusez-moi, le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Un autre passage dit qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu. Il est, dit l'évangile de Jean, la parole qui exprime la pensée de Dieu. Tout Dieu est en Christ, notre texte le dit. Et nous utilisons les mots Père et Fils, parce que les deux sont de la même nature, unis dans un amour éternel, un seul Dieu, avec le Saint-Esprit en 3 personnes. Ne vous en faites pas si vous trouvez ça un peu compliqué. Vous n'êtes vraiment pas les seuls. Il est peut-être normal que Dieu nous dépasse, non? Toujours est-il que quand nous contemplons Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui se rend visible à nous. Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et je le prends au mot. Maintenant, regardez le verset 17. « Tout a été créé par lui et pour lui. » Il est donc le Créateur, il a créé l'univers pour lui-même. À la fois le monde matériel et visible que nous connaissons avec ses milliards de galaxies, et paraît-il dans le système scolaire un nouvel objet qu'on vient de découvrir, et le monde invisible des esprits et des anges. Il crée cet univers et il le fait vivre, verset 17 dit que tout subsiste en lui, il le fait vivre. Et l'apôtre Paul lui donne le titre de premier-né, qui signifie que tout lui appartient de droit, qu'il est l'héritier de tout, qu'il a le rang le plus élevé. Un petit peu comme le roi David, à son niveau, qui est appelé dans la Bible un premier-né pour Dieu, alors qu'en fait, il était le septième de son père. Voilà donc Christ, chef de la première création et chef de la nouvelle, puisqu'il nous est dit qu'il est le chef et la tête de l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés de façon magnifique. Qui est-il pour le faire? Il est le Fils de Dieu, avant toute chose, parole éternelle, image visible du Dieu invisible. Ben maintenant, on se pose la question, ça c'est de la théologie, qu'est-ce que ça signifie pour moi, dans ma vie et dans mes contacts avec les gens? Chapitre 2, verset 10, cela veut dire que j'ai tout pleinement en Christ. En Christ, je suis pleinement comblé. J'ai besoin de rien d'autre, j'ai besoin de personne d'autre. J'ai tout en Christ. Mais j'aimerais être encore plus précis. Et c'est là que nous verrons le lien entre ces chrétiens de Colosse au 1er siècle et les chrétiens d'Ozoir-la-Ferrière au 21e. À Colosse, on faisait croire aux chrétiens qu'ils pouvaient acquérir une connaissance supérieure qui n'était pas accessible à tout le monde. Ça, on entend encore beaucoup, hein. C'est toutes les sectes ésotériques et compagnie, la scientologie, une connaissance supérieure qui n'est pas accessible à tout le monde. Seuls quelques initiés pouvaient le leur transmettre. Et Paul dit non, enfin il dit même pas non. Il dit simplement, positivement, en Christ se trouvent les trésors de la sagesse et de la connaissance. Chapitre 2, verset 3. C'est pas la peine de chercher plus loin. Pas la peine d'aller du côté des religions ésotériques. Pas la peine de chercher une initiation élitiste, comme certains dans l'Église d'Ozoir l'ont fait autrefois. Nous avons en Christ toute la sagesse de Dieu. Et puis à Colosse, on disait aussi que pour atteindre Dieu, il y avait comme une sorte d'échelle invisible, une sorte d'échelle de puissance intermédiaire qu'il fallait connaître, par qui il fallait passer. Il y a un nom technique pour ces puissances, des éons, comme des anges ou comme des esprits, de plus en plus puissants au fur et à mesure qu'on monte en grade. Et les voilà cités dans les Colossiens, trône, seigneurie, autorité, puissance. Et l'apôtre Paul ne dit pas que ce monde invisible n'existe pas. Il dit que nous avons un accès direct auprès de Dieu, par Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de passer par des intermédiaires célestes. Nous sommes en paix avec Dieu directement par Jésus-Christ. Nous annonçons Jésus-Christ. Nous avons tout en Christ. Et ces malheureux éléments invisibles, nous n'avons pas à nous en occuper. Christ leur est supérieur. Il les a vaincus à la croix. C'est lui notre chef et pas eux. Dans l'église d'Ozoir, nous sommes également plusieurs à avoir mis un temps quelqu'un d'autre entre nous et Dieu. Un seul est notre interlocuteur, Jésus-Christ. Nous sommes plusieurs à avoir cherché à nous protéger contre la magie en cherchant une magie plus forte. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons tout pleinement en Christ. À Colosse, on disait encore autre chose. On leur disait que le chemin de la spiritualité, le progrès, ça passait par un régime alimentaire très strict. Et à l'époque, c'était certainement le respect des règles juives et la pratique de différentes sortes d'abstinence et de jeûne. Ce sont des pratiques religieuses universelles. Ne pas manger ceci ou cela, ne pas boire ceci ou cela, ça semble nous imposer une certaine discipline et nous rapprocher de Dieu. Mais l'apôtre dit que ces pratiques ne peuvent rien faire par rapport au péché ou par rapport à la pratique du bien. En Christ, nous n'avons pas besoin. Jésus lui-même a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui en sort. Ses actes, ses paroles, ses pensées. Ce que nous mangeons n'a rien à voir. Sauf dans le domaine de la santé, éventuellement, mais pas dans le domaine du rapport à Dieu. Et dans notre entourage, nous avons tous connu des gens pour qui le manger et le boire, ou plutôt le fait de ne pas manger et de ne pas boire, pour eux, c'était un aspect essentiel de leur rapport à Dieu. Mais non, dit l'apôtre, c'est une ombre. La réalité, ce qui est concret, c'est en Christ que nous l'avons. Ces choses-là appartiennent à ce qu'on pourrait appeler une pratique religieuse humaine, universelle et rudimentaire. Mais la réalité, le fond des choses, est en Christ. Et il dit la même chose par rapport aux fêtes et aux jours de sabbat. L'essentiel n'est pas dans des jours, Noël ou dimanche ou je ne sais pas quoi. Et il dit même que personne ne nous juge à ce sujet-là. Christ, c'est vraiment tout pour nous. Et dernier point, où les chrétiens de Colosse étaient un peu comme les nôtres. Ils étaient impressionnés par des gens qui ne s'appuyaient pas seulement sur la Bible, mais sur leur vision. C'est au chapitre 2, verset 16, ou verset 18 plutôt. Ils priaient donc, ils jeûnaient, ils vous disaient que Dieu leur avait fait comprendre certaines choses à travers des visions. Et à ce moment-là, comment leur dire que vous n'y croyez pas? Vous auriez l'air de contredire Dieu. Vous auriez tendance à penser que vous avez affaire à quelqu'un qui vit plus près de Dieu que vous. Mais l'apôtre Paul, qui lui en avait quand même reçu les visions, nous dit de ne pas permettre à de telles personnes de nous prendre en otage et de nous éloigner de Christ. C'est Christ, c'est Jésus-Christ qui est la clé de tout. C'est simple. C'est quand même profond. Si nous comprenons vraiment cela, nous allons être enracinés en Christ. Nous allons être libérés d'un tas d'idées faussement religieuses et nous serons libres pour grandir dans l'amour. C'est là, dans la pratique, ce qui compte le plus. Nous deviendrons des adultes. C'est ce que Paul vise dans ses lettres et ce que nous visons nous aussi. Alors, pourquoi chercher ailleurs? Si tout est en Christ, pourquoi cherchons-nous à droite ou à gauche? Approchons-nous de Christ, comprenons ce qu'il a fait, comprenons qui il est. Amen.